Europe 1. Sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour un nouveau numéro d'Historiquement vôtre. L'émission qui vous redonne le sourire tout en boostant votre culture G, votre 3G, 4G, 5G. Deux heures d'histoire rieuse en compagnie d'un énergumène rieur lui aussi.
Ah bon ?
Oui, bah c'est vous. Bonjour Mathieu Noël.
Ah, c'est moi. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Écoutez, chaque après-midi, vous le savez maintenant, sauf si par habitude vous écoutiez encore bêtement RTL. Ici, on part à la rencontre de trois personnages historiques très différents qui ne vivaient pas à la même époque, mais qui avaient un point commun, Stéphane.
Oui, aujourd'hui Mathieu, nos trois personnages sont trois femmes qui ressentent une colère manifeste. On réunit des badasses du féminisme qui ont chacune écrit un manifeste qui a fait réagir.
Là, vous venez d'employer un mot de jeune, Stéphane. Vous savez
oui,
ce que badass, ça veut dire, badass?
Oui. Oui, ça vient de bad ass.
Qui veut dire ?
Mauvais cul, non ? Ou mauvais...
Oui. Anne, peut-être.
Ou Anne, plutôt, oui. Oui. C'est genre ce que ça veut dire, c'est le... Oui. Oui, parce que c'est pas par rapport au cul, c'est rapport à, plutôt à l'âne.
Ah, très bien.
Eh oui, heureusement que David Castello est avec nous.
Hein. Oui, oui. Oui, parce qu'il parle toutes les langues. C'est ça qu'il
y compris celle des jeunes.
D'abord, la peintre et poétesse anglaise Mina Loy, qui signe en 1914 son manifeste féministe et ses écrits modernistes à contre-courant du mouvement des suffragettes. Puis, à contre-courant, elle l'était aussi assurément. Je vous raconte Valérie Soladas, la féministe radicale, connue pour avoir tenté d'assassiner Andy Warhol, qui édite son Ska Manifesto, dans lequel elle appelle à éradiquer l'homme. Radical, hein, je vous l'ai dit. Hein. De votre côté, Mathieu, vous nous brosserez le portrait de celle qui nous écoute chaque après-midi, donc vous allez faire gaffe.
Hein. Oh, je n'aurais guère besoin de faire gaffe, Stéphane, sachant que je l'adore, qu'elle est une de nos plus grandes écrivains ou autrices, si elle veut, car elle est aussi féministe engagée. Son manifeste à elle, c'est son célèbre King Kong Theory. Virginie Despentes nous écoute souvent, Stéphane, c'est vrai, certainement pour trouver l'inspiration. J'espère que pour une fois, vous saurez vous tenir.
Si la femme était utile, Dieu en aurait une.
Hein. Ça commence mal. Heureusement, nos chroniqueurs, eux, sont d'authentiques féministes. Hein.
Oui, oui. Avec nous, comme chaque jour, elle nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde. Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bonjour à tous. Alors, ouais, il y a quand même un homme que j'aurais bien aimé mettre entre les mains de vos badass du féminisme qui n'est pas présent sur ce plateau. C'est Georges Simenon, le père du commissaire Maigret, l'auteur le plus lu dans le monde. En 77, il s'entretient avec son ami Fellini et il avouait avoir calculé qu'il avait possédé 10 000 femmes dans sa vie.
Possède-t-on jamais une
dont
femme.
8 000 prostituées. Hein. Ah. Alors, vous voyez, si on compte ça sur 70 ans durant, cette chasse aux femmes, là, ça fait 25 500 jours.
Comment c'est
ça
possible?
Fait une moyenne d'une femme différente tous les 2 jours et demi. Alors, Simenon et le femme, c'est mon sujet du jour. Et vous allez voir qu'il il aurait bien mérité de passer une demi-heure entre les mains de vos badasses.
À l'évocation de ce chiffre, la mâchoire de David Castello-Lopez vient de se décrocher. Oui. Et il est songeur.
Ça tombe bien que la mâchoire de David Castello-Lopez se décroche.
Oh, je sens la transition.
Le sujet du jour, qui remonte aux origines d'une invention.
Tout à fait, qui permet de faire des choses à l'intérieur de sa mâchoire, de se laver les dents, parce que c'est la brosse à dents. Voilà, j'essaie de faire des transitions.
Ça, vous essayez de raccrocher les agos. La brosse à dents, j'imagine que ça remonte à la préhistoire, un bâton avec des poils dessus. Ne déflorez pas votre sujet, mais c'est vieux quand même, la brosse à dents.
Non, c'est vieux. Après, la brosse à dents telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est un plus petit récent. Peu plus récent.
Oui, voilà. Oui. Mmh. Alors, notre chef, j'allais dire, d'historiquement vôtre, qui remonte aux origines des recettes.
Avant de se brosser les dents, on peut manger, et en l'occurrence, des petits pois. Vous savez, c'est le caviar vert. On est en pleine saison de ce produit magnifique, et je vous parlerai d'une recette très classique des petits pois, les petits pois à la française.
Eh bien, nous avons hâte, mon cher Olivier Pouls. Enfin, s'il est bon d'avoir des petits pois chez soi ou dans son assiette, c'est plus handicapant quand ce petit pois est dans votre tête.
Oh.
Je ne vise personne.
Oh.
Je ne vise personne. Mais vers 5h10, nous jouerons, comme d'habitude, à Bern to be alive. Émoticône clin d'œil, émoticône petit singe qui se prend la tête dans les mains. Mais tout de suite, découvrons notre première féministe manifeste du jour. Stéphane Bern nous raconte Mina Loy.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Femme, si vous souhaitez vous accomplir, toutes vos illusions domestiques doivent être démasquées. Les mensonges des siècles sont à congédier. Êtes-vous préparée à cet arrachement? Cette femme qui s'adresse avec virulence à ses semblables s'appelle Mina Loy. Elle est née Mina Gertrude Loy en 1882 à Londres. Éduquée dans la pesante atmosphère puritaine de la fin de l'ère victorienne, elle aurait pu être suffragette et militer aux côtés des femmes engagées pour le droit de vote et l'égalité entre les sexes. Mais son combat est d'un autre ordre et sa pensée tout à fait singulière. Mina Loy n'est pas très connue en France, elle a peu publié de son vivant et lorsqu'on évoque, c'est trop souvent à l'ombre d'un homme qu'elle n'a côtoyé que quelques mois. Mais n'allons pas trop vite. Pour comprendre la vie de cette femme extraordinaire, il faut revenir à sa jeunesse passée dans le carcan d'une société prude et d'une famille austère. Le père de Mina est un tailleur juif émigré, sa mère une protestante rigoriste, le mariage n'est pas heureux et Mina souffre de la sévérité maternelle. Pour s'évader, Mina Loy se passionne très tôt pour les arts et obtient le droit de les étudier dans une école reconnue de Londres. Les classes ne sont pas mixtes, les sujets ne sont pas libres et l'atmosphère à la maison est de plus en plus pesante. Alors Mina décide de s'éloigner, direction Munich, pour poursuivre sa formation. La jeune fille n'a que 18 ans lorsqu'elle intègre la Société des femmes artistes liée à l'Académie des beaux-arts de la ville. Munich aussi est une capitale culturelle en pleine effervescence. C'est l'époque du Jugendstil, l'équivalent allemand de l'art nouveau, dont les courbes, les couleurs et la philosophie affichent une rupture avec la conception traditionnelle des arts. Cette modernité revendiquée, c'est un peu le fil rouge de la vie de Mina Loy. Diplômée, la jeune peintre débarque à Paris, la ville rêvée des artistes qui se rencontrent dans les cafés de Montparnasse. À l'Académie Colarossi, où elle étudie, Mina fait la connaissance d'un autre jeune peintre, Stephen Aweis, qu'elle épouse en décembre 1903. Leur fille Oda naît 4 mois plus tard. Si Stephen ne brille pas par son talent, les peintures de Mina, quant à elle, sont reconnues. Elle expose au Salon des Beaux-Arts et au Salon d'Automne. La petite Oda meurt peu avant son premier anniversaire. Suivie par un docteur avec qui elle entame une relation, Mina tombe à nouveau enceinte. Le couple bancal qu'elle forme avec Stephen ne se brise pas tout de suite ensemble. Ils partent pour Florence, aménagent un atelier et fréquentent l'intelligentsia anglaise installée en Italie. Naît alors un autre enfant. Mina délaisse la peinture pour la poésie. Les relations entre les deux époux se détériorent encore. Stephen finit par filer en Australie avec sa maîtresse. De toute façon, Mina ne supportait plus celui qu'elle surnomme le nain. En Italie, Mina Loy rencontre les figures de proue du mouvement futuriste, comme Filippo Tommaso Marinetti. Pour eux, les musées sont des cimetières. Il faut rompre avec l'académisme bourgeois, y compris dans l'art, valoriser le progrès technique plutôt que les sculptures grecques. L'heure est à la radicalité, ce qui plaît plutôt à l'anglaise. Mais sur la question de la femme, le futurisme est plutôt rétrograde. En 1914, Mina Loy exprime à son tour ses idées dans un manifeste, le Feminist Manifesto, un poème en prose à la typographie originale. Certains mots sont mis en avant, bien plus gros que les autres, et soulignés. Ils semblent crier, interpeller le lecteur, ou plutôt la lectrice. Non, la femme n'est pas l'égale de l'homme. Pourquoi voudrait-elle limiter cet être vaniteux qui cherche le pouvoir et l'argent? Au contraire, les femmes doivent puiser en elles-mêmes leur autonomie créatrice, intellectuelle et sexuelle. En reléguant la question de l'affranchissement économique au second plan, Mina Loy porte au passage un coup violent à la Women's Social and Political Union, l'organisation féministe créée au début du siècle en Angleterre par Emmeline Pankhurst. Le mouvement féministe tel qu'il est constitué à présent est imparfait. Cessez de placer votre confiance dans la législation économique et l'éducation égalitaire. Des carrières libérales et commerciales s'ouvrent à vous. Est-ce là tout ce que vous voulez? Dans les conditions actuelles, vous avez le choix entre le parasitisme, la prostitution ou la négation. Les propositions de Mina Loy sont aussi déroutantes que ce manifeste. Puisque la virginité des femmes est valorisée comme une vulgaire marchandise, elle doit être systématiquement enlevée aux jeunes filles à la puberté. Mais Mina Loy est loin d'offrir un véritable programme aux femmes. Ce n'est ni une idéologue, ni une militante. Plus que féministe, elle est moderne. Elle refuse les normes et entend briser les codes d'un monde ancien. Et alors que l'ancien monde, justement, s'enfonce dans la guerre, Mina Loy s'embarque pour New York. Là-bas aussi, elle fréquente l'avant-garde. Marcel Duchamp et Francis Picabia. Les deux artistes ont invité Arthur Cravin, précurseur du surréalisme et accessoirement grand amoureux du scandale, à donner une conférence en Amérique. Mina Loy le rencontre en 1917, lors d'une soirée chez les époux Arensberg, un couple de collectionneurs au centre de la vie artistique new-yorkaise. C'est l'amour fou. Arthur fuit l'entrée en guerre des États-Unis, se réfugie à Mexico. Mina le rejoint en janvier 1918. Ils se marient 3 mois plus tard et décident de partir vivre en Argentine. Sur la côte pacifique, Mina, enceinte, embarque sur un bateau japonais qui fait cap sur Buenos Aires. Arthur doit la rejoindre par ses propres moyens, commencer une nouvelle vie en Amérique du Sud peut-être, mais un drame va bientôt venir tout bouleverser. Comme dans un roman, rien ne va se passer comme prévu. Chercher l'amour avec toutes ces catastrophes est une expérience moins risquée que de la trouver, disait Mina Loy. Comme pour lui donner raison, Arthur Cravant, l'homme de sa vie, disparaît en novembre 1918 dans une tempête du golfe de Tehuantepec au Mexique. C'est du moins l'une des thèses avancées, car son corps ne sera jamais retrouvé. Mina Loy le cherche partout, engage des détectives. Elle commence un roman qui le prend comme modèle, mais ne le finit pas. En avril 1919, leur petite fille naît. Elle est tout ce qu'il reste à Mina de cette passion amoureuse. Mina Loy a choisi de rentrer en Europe. Elle est toujours là où les choses se passent, à Berlin, à Vienne. Elle rencontre Freud et s'intéresse à la psychanalyse. En 1917, le New York Sun avait sacré Mina Loy « Symbol of the New Woman ». Elle prouve à nouveau, en créant son propre chemin, qu'elle est cette femme moderne. Dans les années 20, Paris est de nouveau le centre de l'art. Mina s'y installe et y côtoie les plus grands esprits du temps. Man Ray, la romancière Juna Barnes, James Joyce, Picasso, Gertrude Stein. En plus de la peinture et de l'écriture, Mina Loy est une designer de talent. En 1926, elle ouvre une boutique de chapeaux et de lampes avec l'aide de la mécène Peggy Guggenheim. Sa première fille se marie et part vivre à New York. Elle la rejoindra bientôt, fuyant à nouveau la guerre et le nazisme. Mina Loy n'écrit plus beaucoup. Pourtant, elle est considérée par la jeune génération comme une grande poétesse, notamment depuis un texte érotique et même assez cru, Pig Cupid, qui a beaucoup marqué les esprits dans les années 1910. André Breton, réfugié en Amérique, l'a décrit comme un génie à l'état brut. Henry Miller confirme « Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose au monde qu'elle ne comprenne pas ». Mina Loy a une 60aine d'années, ses valises sont définitivement posées aux États-Unis, elle n'en partira plus. Pour poursuivre sa vie d'aventurière, elle peint sur des cartes routières. Celle qui a tout connu des révolutions artistiques de la première moitié du siècle à travers 3 continents, s'éteint en 1966 à Aspen, dans le Colorado, et nous laisse pour toujours son Feminist Manifesto.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de l'étonnamment moderne Mina Loy, nous sommes avec l'écrivain Mathieu Terrence. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Bonjour Mathieu Terrence, vous avez écrit plusieurs romans. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Mina Loy éperdument, publié chez Grasset. Vous décrivez ce livre comme un récit très littéraire de Mina Loy. Autrement dit, pas la peine de faire un roman de Mina Loy, sa vie l'est déjà assez romanesque.
Oui, c'est ça. En fait, j'ai même demandé à ce qu'il n'y ait pas la mention roman écrit sur la couverture. Sa vie, effectivement, est tellement pleine de péripéties. Elle naît à la fin de l'ère victorienne. Elle meurt dans les 60s à Aspen, aux États-Unis. Elle a traversé 2 guerres mondiales. Elle a fréquenté les mouvements artistiques les plus novateurs et les plus porteurs d'avenir de son temps, que ce soit les futuristes, comme vous l'avez très bien raconté, Dada à travers son amour que Arthur Cravant, puis les surréalistes, tout de l'art moderne, en fait, elle l'a très bien connu. Elle avait chevillé au corps l'envie de s'accomplir, de s'affirmer. Elle s'est rendue disponible pour ce destin-là, et ce qui fait que de rencontres en aventure. Enfin, sa vie est aventureuse. Sa vie est un roman. Il n'y avait au fond qu'à se baisser pour ramasser les moments étonnants, les moments poignants aussi de son existence.
Comment vous avez croisé son chemin, Mathieu Terrence? C'est par le poète Arthur Cravant, dont vous êtes admirateur, que vous l'avez découvert, Mina Loy. Le fait qu'il l'ait aimé, ça la rendait intéressante à
vos yeux. C'est souvent le cas. Je crois que quand on aime quelqu'un, on s'intéresse aux personnes qu'il aime et on a envie de les aimer. Il y avait très peu de choses sur Mina Loy. Il faut saluer le travail d'un traducteur, Olivier Happer, pour les éditions Nous, qui avait publié quelque chose, dont d'ailleurs le manifeste, je crois. Mais en effet, c'était Arthur Cravant, cette espèce de personnage qui avait placé passé sa vie sous le signe de la foudre, un peu. C'était un mélange d'Edouard Baird et de Sid Vicious, en un sens, à son époque. Et, oui, effectivement, qui avait fait de sa vie autant que de son œuvre en elle-même, de poète, une œuvre d'art. Je m'intéresse à lui et donc je vois que cet Olybrius, qui était aussi boxeur, entre autres choses, un poète boxeur, c'est toujours passionnant, enfin. Il avait épousé Mina, et donc je me suis intéressé à cette femme, et je me suis renseigné dans les correspondances des gens qu'elle avait rencontrés, dans les biographies des gens qu'elle avait rencontrés, dans des biographies aussi américaines, et j'ai vu que sa vie était absolument fascinante, qu'elle était tout sauf une muse, comme souvent on avait en tout cas envie de cataloguer les femmes qui avaient fréquenté des grands esprits, on a eu tendance à les appeler des muses ou des égéries, il en va de même pour Lou Salomé par exemple, alors que en elles-mêmes, elles sont absolument autonomes, parfaitement, elles produisent des œuvres, elles influencent autant qu'elles sont influencées. Et voilà, je voulais rendre à Mina sa vie, en fait, la lui rendre.
Dans l'introduction de votre livre, Mathieu Terrence, vous décrivez Mina Loy en ces termes. Plus cérébrale que frivole, plus sensible que sentimentale, aussi seule que libre, mais peut-il en aller autrement ? Dès sa jeunesse, elle hâte l'avenir. Cosmopolite, intrépide, sexy d'intelligence, elle renvoie à leur néant les préjugés, l'obsession de l'argent et du confort. On a l'impression que ce qui vous a accroché chez elle, c'est une forme de complexité qui la rendait presque insaisissable.
Oui, c'est effectivement. Mina est un félin, en un sens, marqué par le besoin de n'appartenir à rien ni à personne. Hein. Ça, c'est vraiment une des choses qui la caractérise. Elle ne veut ni appartenir à la communauté juive dont, par son père, elle est issue. Elle ne veut surtout pas avoir le destin des femmes de son temps qui ont le choix entre la maternité à domicile et à peu près rien d'autre. Et donc, ne s'ouvre à elle que la voie soit du couvent et de la foi, soit de l'art. Et son père aimant l'art, il va la soutenir contre sa mère, qui est une femme araignée, qui ne l'a pas aimée, qui l'a même sans doute détestée. Effectivement, elle veut échapper donc à son destin de femme, à sa communauté d'origine. Elle veut échapper aussi aux clichés de l'art. Hein. C'est pour ça, en un sens, qu'elle va être un peu méconnue. C'est qu'elle ne va pas du tout... elle va refuser, en un sens... les conventions du monde artistique. En cela, elle sera fidèle à l'homme qu'elle a aimé. Hein. Je pense qu'il y a dans son retranchement aussi quelque chose qui m'a beaucoup ému, c'est une fidélité à l'homme perdu, à Arthur Cravant. Elle ne lâchera rien après lui. Lui qui ne lâchait rien sur rien, hein, qui était une sorte de kamikaze mondain, comme ça, qui était une bombe vivante qui pouvait exploser à tout instant. Elle va garder ça. Alors, non pas peut-être dans l'éclat, plutôt dans la réserve, mais elle va garder une radicalité. Ça, c'est très frappant. Elle est intraitable. On ne la lui fait pas. Elle ne va pas jouer le jeu. Voilà. Elle ne jouera aucun jeu. Voilà. Et ça la rend... ça fait une vie assez ludique, ouais, d'ailleurs, de ne pas jouer le jeu. Avec un prix à payer, certainement. Un prix matériel. Elle vivra la misère, parfois. Un prix de célébrité. Elle va être mise dans l'ombre. Mais un prix de liberté. Et c'est peut-être ça qu'elle incarne le plus, la liberté.
Alors, féministe, oui. Radicale, oui. Mais Mina Loy, on découvre que c'est surtout une artiste. J'ai envie de reciter une phrase que Stéphane nous a livrée tout à l'heure. Une phrase que je trouve magnifique. « Chercher l'amour avec toutes ces catastrophes est une expérience moins risquée que de le trouver. » Je trouve que ça pourrait être du Romain Gary. Enfin, on sent qu'on a affaire à une femme exceptionnelle. C'est une artiste avant d'être une féministe, Mina Loy.
Oui, et ça va déterminer l'essentiel de sa vie. Hein. L'artiste, c'est celui qui se crée lui-même, au fond, hein, le véritable. Il est son propre auteur, et l'auteur de sa vie, et jusqu'à l'auteur de tous ses goûts, et ainsi de suite. C'est comme ça, en tout cas, qu'elle voit les choses. Et c'est ce qui va donc caractériser sa recherche, sa quête de liberté et de se définir absolument.
Ouais. Vous l'avez dit déjà un petit peu en filigrane, Mathieu Terrence, mais vu sa reconnaissance, on s'étonne qu'elle n'ait pas été plus célèbre. Elle côtoyait des gens célèbres,
oui,
mais
oui,
pour autant, au fond, elle est assez méconnue. Comment vous l'expliquez ? Parce que elle a tout d'une héroïne.
Absolument, mais elle finit par l'être. Et en un sens, le temps fait toujours justice, au fond, à la vérité ou à la singularité, d'une certaine manière. Après, il prend parfois lui-même son temps, le temps. Mais à l'époque, elle côtoie des gens qui aujourd'hui sont devenus extrêmement célèbres, mais à ce moment-là, par exemple, quand elle arrive à New York, ou prenons Marinetti, les futuristes, et ensuite Duchamp à New York avec Henri-Pierre Rocher, ils sont tous les deux de très grands amis. Henri-Pierre Rocher, pardon, c'est l'auteur, par exemple, de Jules et Jim. Elle côtoie Picabia aussi. Ces gens-là, sont connus, mais dans un monde assez restreint. Simplement, ce monde va devenir la modernité. C'est-à-dire que 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans après, ils auront, à cette époque-là, défini certains de nos schèmes esthétiques, de nos repères. Ils auront marqué notre sensibilité. Mais à ce moment-là, elle est simplement parmi les 10 ou 20, 30 personnes qui vont faire la modernité. Et puis ensuite, il y a en elle une réserve. Elle ne supporte pas la société et ces gens-là vont la faire, ils vont en être, ils vont participer, ils vont l'édicter. Et elle ne va pas jouer ce jeu-là, comme je vous l'ai dit. Elle préférera se mettre en marge, toujours par un souci de radicalité. Et puis il y a peut-être aussi le destin qu'on a fait aux femmes artistes du XXe siècle. En un sens, elle aurait pu être une sœur de Frida Kahlo, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais Frida, elle a été plus reconnue parce que ses œuvres peut-être ont été plus comestibles. Elle ne joue pas le jeu non plus dans ce qu'elle propose esthétiquement. Au moment où, par exemple, Duchamp apparaît et que l'art conceptuel commence à voir le jour et va prendre tellement de place avec l'art contemporain, elle continue de faire, je dirais, un art d'une sorte traditionnelle. Elle dessine, elle sculpte, elle est encore dans le sensuel. Elle ne va rien avoir à faire des dictats de l'art de son temps.
Mathieu Terrence, j'aimerais pardon qu'on revienne, s'il vous plaît, à son féminisme, qui était vraiment particulier. Il était presque en décalage avec le féminisme de l'époque, notamment quand elle dit que la femme n'est pas l'égale de l'homme, ou quand elle relègue la liberté économique et professionnelle au second plan. Comment vous comprenez son féminisme?
Alors, je ferai peut-être une nuance dans ce que vous dites. Alors qu'elle refuse l'égalité, c'est-à-dire qu'elle refuse l'identification. Elle parle plutôt d'équivalence. Elle ne conteste pas l'équivalence des hommes et des femmes, c'est-à-dire que leurs droits, leur valeur intrinsèque, mais elle n'en fait pas la même chose. Et c'est pour cela que quand elle va développer cette idée de féminisme, elle va suggérer aux femmes d'échapper aux normes valorisées par le monde des hommes. Par exemple, l'argent. Et donc, par exemple, la réussite professionnelle. Mais c'est plutôt une contestation de l'ordre des choses, plutôt que de dire ne vous appropriez pas ces outils d'émancipation. C'est plutôt chercher une émancipation en dehors des critères valorisés par celui des hommes. Elle ne dit pas tout à fait renoncer à la réussite professionnelle. Elle dit décrocher la réussite dans votre vie, même sans réussite professionnelle. Vous voyez, elle délivre de toute injonction à la réussite ou à l'argent. Ce que je trouve en fait assez magnifique, d'une certaine manière, et qui pourrait être aussi récupéré de nos jours. Il y a d'autres manières de réussir, voilà. Il faudrait qu'un monde le rende possible, ces autres manières.
Donc elle était futuriste, même dans son féminisme.
Absolument, oui. Oui, oui. Et puis il y a... Alors c'est tous les ismes, disons qu'elle voulait d'abord être elle-même, voyez. Et elle voulait que cette façon d'être elle-même puisse être exemplaire, certainement. Et puis il y avait aussi le goût de la provocation qui est inhérent à toute forme d'émancipation. Il faut bien provoquer l'ordre des choses.
Et puis il y a une forme d'errance aussi que vous racontez très bien d'ailleurs, puisque votre livre se construit comme une fuite de ville en ville où elle a vécu. C'est comme une fugitive qui se cherche de partout.
Oui. Alors, ça caractérise aussi ce temps-là, j'ai envie de dire, le cosmopolitisme. Alors, qu'on en ait les moyens dans une sorte de café society, puis de jet society, ou qu'on n'en ait pas les moyens et qu'on soit un peu bohème, parcourir le monde, d'aller d'une capitale à l'autre où la civilisation est à son acmé, ça fait partie un peu du projet. Il y a quelque chose de très poignant chez elle, pour moi. Il y a la perte de son enfant. Disons que Mina n'était pas caractérisée par la fibre maternelle, faut bien dire les choses. Et elle va être éprise de sa propre liberté, au prix certainement de la façon dont elle s'est occupée de ses deux enfants. certainement aussi dans une redite de la façon dont elle avait été maltraitée par sa propre mère. Elle va perdre un enfant dont elle ne s'occupe pas, puisqu'elle est aux États-Unis, elle l'a laissé en Italie avec son sinistre père. Ça va être une blessure pour elle. Et puis il y a cette fidélité à Arthur Cravan, qu'il va disparaître tragiquement. Ça va laisser une empreinte indélébile dans sa vie. Elle a des propos que je n'ai pas sous les yeux, mais qui sont absolument merveilleux pour cet homme encore 30 ans après sa disparition. En gros, elle dit que la vie n'était la vie qu'à ses côtés, en un sens, qu'en le regardant vivre. Mm-hmm. Bon, alors évidemment, quand on la regarde vivre, on a aussi l'impression d'être un peu plus en vie. Ça, c'est vrai. Elle a été contaminée par cette intensité-là.
En tout cas, on sent bien toute l'émotion de cette femme, intraitable, lucide et juste, c'est ainsi que vous la qualifiez, et libre, donc, par-dessus tout, on l'aura compris. Donc, difficile d'enfermer Mina Loy dans quelque isme qui soit. En tout cas, merci Mathieu Terron. Je rappelle votre passionnant ouvrage « Mina Loy éperdument » paru chez Grasset, et puis votre dernier essai aussi du ressentiment qui est publié aux éditions du Cerf. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qu'on pourra se raconter au comptoir du bar. Oui, enfin quand ils auront rouvert. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Et aujourd'hui, Clémentine, tu savais toi que Georges Simenon, il avait eu 10 000 conquêtes? C'est pas vrai. Si, je te jure. C'est en tout cas ce que vous allez nous raconter, c'est un peu
oui,
ça.
Oui, c'est un aspect forcément très connu de la vie de Georges Simenon. Alors, vous savez, quand il a donné naissance au commissaire Maigret, qui est son personnage le plus connu, eh bien, à l'époque, il s'est senti tout à fait incapable de lui donner une vie de famille, parce que lui-même n'avait que 26 ans, il n'avait pas encore d'enfant. Mais c'était son rêve de devenir chef de famille, parce que lui-même avait perdu son père. Lorsqu'il avait 18 ans, son père est mort d'une angine de poitrine. Donc c'était vraiment un souhait très, très profondément ancré en lui. D'ailleurs, il l'écrit, la seule chose qui compte dans une vie, une femme, des bambins dans un cadre calme, solide, une maison de pierre, des meubles massifs, lourds, voilà. Et de fait, il va avoir 4 enfants. Alors avec Ranchon dit Tigui, sa première femme. Il a quand même, c'est quand même sur le tard.
Hein. Il est combien de femmes officielles?
De femmes officielles, il en a épousé 2. Il s'est marié simplement 2 fois. Il a son premier enfant à 36 ans, donc il a quand même attendu pas mal de temps. Mais après, il aura Jean, Marie-Jo, Pierre, issus de son union avec Denise Ouimet. Je trouve rien que ce nom est quand même extraordinaire. Ouimet, je veux bien, Ouimet, mais non. Ils se sont rencontrés à New York. C'est une Canadienne de 25 ans, elle avait 17 ans de moins que lui. Alors avec elle, il a vraiment battu des records, parce qu'elle postulait en fait pour un poste auprès de lui de secrétaire bilingue. Et voilà ce qu'elle raconte. « Je l'ai connu à 13h45 au Brussels. Je l'ai revu à 16h45 au Drake. À 19h, nous faisions l'amour. » Ça n'a pas traîné. Hein. Entre eux, c'est une passion faite de sexe, de jalousie, de disputes et d'alcool. Et ce que va évoquer Denise Ouimet, qui écrira un livre consacré à son histoire avec Georges Simenon, et qui s'intitule, ça va vous plaire, ça, Mathieu, Le Phallus d'or. Voilà, publié en 1981 sous le pseudonyme d'Odile de Sannes. Ça en dit long sur ce qu'elle pensait de son mari. Hein. Ah. Le Phallus d'or. Alors, Simenon, contrairement à son commissaire Maigret, il n'est pas du tout taillé pour avoir un commerce paisible avec les femmes, déjà avec sa mère. Sa mère lui a toujours préféré son frère Christian, qui est mort en Indochine en 47. Et quand il meurt, elle dit à son fils Georges, c'est dommage que ce soit Christian qui soit mort. Ça fait plaisir, merci maman. Et elle s'éteindra à 91 ans sans avoir jamais ouvert un seul livre de son fils Georges. Bon. Ses mariages seront des échecs. Mais évidemment, ses compagnes goûtent assez peu les frasques de ce bagnard de l'érotisme qui court les bordels sous toutes les latitudes. Pourquoi croyez-vous que Maigret est plutôt sympa, le personnage de Maigret avec les prostituées? Mais parce que c'est un univers que Simenon connaît très bien, côtoie, et il a de l'affection pour ses femmes, et je le disais pour présenter cette chronique, il avouait lui-même avoir sans doute conquis près de 10 000 femmes, dont 8 000 prostituées. Quand il prend des pseudos, il a 27 pseudos, hein, la déshabilleuse, Pan, Et puis le vieux suiveur, ça en dit long quand même. Hein. Alors quand il était marié avec Tigui, il était aussi avec Boule, sa femme de ménage. Et puis en même temps, il était l'amant pendant un an et demi de Joséphine Baker. Bah oui, allons-y. Alors autant dire que l'épouse discrète, toujours présente, qui mitonne des blanquettes de veau et des tartes aux mirabelles, des plats qui ont à la fois le goût du terroir, de la fidélité conjugale et celui inoubliable de l'enfance. Bon alors si, mais non, il en rêve, mais il n'est pas taillé du tout pour cette existence. Non, vraiment, il n'est pas Jules Maigret, l'homme tempéré. Chez lui, tout est placé sous le signe de l'excès. Alors, vous imaginez, là-dedans, il y a une fille qui naît, Marie-Jo, en 23 février 53. C'est sa seule fille. Et c'est peut-être son unique chance d'établir une relation simple avec le sexe faible, enfin. Mais l'ambiance familiale est tellement délétère, parce que Denise Ouimet sombre dans l'alcool. Donc la fillette, elle subit de plein fouet la descente aux enfers de ce couple en capilotade. Alors, Georges Simenon, c'est un père plutôt joyeux, plutôt attentif, mais il vit selon sa seule loi. Et comme il doit écrire, il s'est assigné d'écrire 6 à 10 livres par an, il s'enferme comme dans un monastère et il n'est plus là pour personne. Il est complètement fermé au monde extérieur. Il n'y a que son œuvre, que lui, qui existe. Alors, trouver sa place auprès d'un tel père, c'est difficile, surtout un père qui fanfaronne toute la journée au sujet de ses conquêtes devant sa fille.
Il s'en cache pas du tout.
Oh ben non, il l'assume allègrement. Alors là, en 64, Denise, l'épouse névrosée, complètement quitte la maison des Palinges au-dessus de Lausanne. Hein, elle est aussitôt remplacée par Teresa, l'ancienne femme de chambre. Et Marie-Jo vit ça très très mal. Elle aurait voulu avoir son papa pour elle tout seule. C'est pas le cas. Bon, en plus, professionnellement, c'est pas génial. Elle va s'essayer dans la chanson, le cinéma, ça marche pas. Et elle sombre dans la dépression. Et tout ça finit de façon tout à fait tragique parce qu'elle s'est tuée d'une balle en plein cœur. Et à côté d'elle, on a retrouvé le livre de témoignage, pas de témoignage, de déballage, écrit par sa mère. Alors, à sa demande, ses cendres seront dispersées au pied du cèdre dans le jardin de l'écrivain à Lausanne, où le rejoindra son papa le 4 septembre 1989. Mais avant de mourir, Georges Simenon avait quand même écrit les 21 volumes de son autobiographie. 21 volumes. Hein. Alors voilà un homme qui était sans doute génial, mais s'intéressait sans doute trop aux femmes en général et à son nombril en particulier.
Merci beaucoup Clémentine.
C'était très intéressant, Clémentine, oui. de découvrir ce Simenon sous cet angle-là. C'est vrai que ça fait réfléchir. Et j'associe désormais la blanquette de veau à la fidélité. C'est une grande avancée.
Et la tarte aux mirabelles.
Je pense ça. Et oui, je dis, votre mari fidèle, blanquette de veau, tarte aux mirabelles.
Bah, c'est Maigret, hein, que voulez-vous que je vous dise.
Que nous réserve le quiz? Certainement encore des émotions fortes. À tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Du cœur de Chopin qui marinait dans le cognac à la folle croisière d'un marin sur le fleuve Prout, c'est une des séquences les plus riches de notre émission. Et pourtant, quoi qu'il advienne, c'est une constante, presque une loi fondamentale de l'univers. Elle se termine toujours cette séquence par ces mots de Stéphane.
Mais vous êtes vraiment pervers.
Oh oui, jouons à Bern to be alive. Stéphane, la première question, c'est la tradition, et pour vous. John Fitzgerald Kennedy, Barack Obama, Trump, Biden, ils ont tous travaillé sur le Resolute Desk. Ce bureau mythique, au bord sculpté, recouvert de cuir, son bois vient d'un navire d'exploration polaire qui a été coincé dans l'Arctique. Vrai ou faux ? Le vide, je traduis pour nos auditeurs, le vide intégral dans le regard Stéphane Bern.
Mais il y a beaucoup. Oh, écoutez,
du président américain dans le bureau ovale viendrait d'un.
Et il y a une raison pour laquelle je vous pose cette question. À vous.
À moi personnellement.
À vous personnellement.
Pourquoi moi? Quel lien vous faites avec ce bureau?
Je n'aurais peut-être pas dû donner cet indice supplémentaire, ça va vous embrouiller plutôt qu'autre chose.
Peut-être parce que vous avez
Vous n'avez pas de lien particulier avec ce bureau, c'est juste que ce bureau
que
a été offert par quelqu'un qui vous est cher.
Par Louis XVI, il aurait été offert aux États-Unis. Non, c'est pas ça. Parce que dans un bois rapporté par la Pérouse, dans un...
Oui, par exemple, ça peut être...
Il aurait été offert par
Est-ce que c'est un lien avec l'amitié franco-américaine?
Pas du tout.
Ah bon, alors...
Et je vous rappelle la question, en plus, on s'en moque, puisque la question est, est-ce vrai ou faux que le bois de ce bureau, le Resolute Desk à la Maison Blanche, est-ce vrai que son bois vient d'un navire d'exploration polaire qui a été coincé dans l'Arctique? Pas de contre-pétrie.
Il a été coincé dans l'Arctique? Non, écoutez...
Non, ça me dit rien.
Ça vous dit rien. Vous ne connaissez pas cette histoire?
Je ne connais absolument pas, je dis non.
Vous avez
Vous ne connaissiez pas cette histoire. Non. Moi non plus, je le confesse. En 1880, la reine Victoria en fait cadeau aux États-Unis un gage d'amitié entre le pays et son royaume. Le navire s'appelait le HSM Resolute. Il est resté 2 ans coincé dans les glaces, puis délivré par un baleinier. On se souvient tous de Kennedy, pris en photo, travaillant sur le bureau avec son fils John Jr., jouant sous le bureau.
Quel intérêt d'avoir bureau dans un bateau anglais, en plus, coincé dans l'Arctique. Non, mais oh.
C'est comme ça que j'ai essayé d'aiguiller Stéphane, avec le côté anglais, Reine Victoria, mais rien n'y fit.
Bah, il boude, coup, regardez.
La défaite.
Allez,
au tournant, ce n'est pas la Boudi première
Bouddha,
fois, Stéphane.
Veux-tu du bois? Vous vous souvenez de cette chanson quand vous étiez petit, non? Ah, voilà, je lui redonne le sourire.
Jamais été petit.
Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Oui. Par le décret du 4 primaire de l'an 2, c'est-à-dire en 1793, et ce pendant 2 ans, la première république en France a adopté le temps octal, à savoir que le temps était divisé par 8, vrai ou faux?
Elle connaît ça par cœur.
Non, pas du tout. Le calendrier républicain, oui. La division de l'année en ventose, nivose, pluviose, frimaire, et le changement des noms des saints, en fait, de la carotte. Mais alors là, la journée, donc le temps, ça veut dire que la journée n'aurait plus contenu, était divisée en 24 heures?
C'est exactement la question que je vous pose. À savoir que le temps était divisé par 8. On parlait du temps octal. Est-ce vrai ou faux?
Ça ne me dit rien du tout. J'ai jamais entendu parler de ça.
Vous dites que c'est faux?
Je dis que c'est faux parce que. Enfin, je dis que c'est.
Elle dit que c'est faux.
Oui, je dis que c'est faux.
Vous dites que c'est faux.
Vous avez gagné!
Vous avez gagné. C'est faux. Mais le temps était bien divisé différemment. C'était le temps décimal. Le jour, de minuit à minuit, était divisé non pas par 12, mais par 10. Et toutes ces parties elles-mêmes divisées par 10. La journée commençait à minuit et à midi, il était 5 heures. Le système métrique décimal a été conservé pour les poids et mesures. On l'a abandonné pour le temps en 1795. Il existe encore des horloges décimales, notamment au musée de la Révolution française à Vizy, près de Grenoble.
Magnifique.
Si vous cherchez une idée cadeau, ça me ferait plaisir d'avoir une horloge décimale. Je trouve ça assez étonnant. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Si vous buvez un cappuccino, eh bien, sachez que le nom vient des moines capucins du XVIe siècle. Vrai ou faux?
Absolument.
La réponse est fusée.
Oui, parce que
certitude totale.
Il y avait cette petite crème, vous savez, au-dessus.
Oui.
Cette crème
vous
blanche,
avez pensé à leur
etc.
tonsure
qui rappelle la tonsure des capucins.
Alors, attendez, ça, c'est votre explication.
Oui,
vous savez que cette explication peut vous faire perdre le point.
Peut-être, mais c'est connu, c'est aller
c'est
sur
connu.
Wikipédia.
À Wikipédia, là, vous voulez dire là où on dit que vous descendez de Robespierre?
Voilà.
Ce signe de référence absolu.
Mais
c'est donc vrai.
Je crois.
Vous avez gagné.
C'est une bonne réponse. Le nom cappuccino vient des moines capucins du XVIe siècle. La couleur de la boisson rappelle l'habit de cette confrérie italienne branche des franciscains. C'est l'explication qu'on a trouvée nous. Marco Aviano, un frère capucin, est le confident de Léopold Ier. C'est l'époque des premiers cafés à Vienne. Et le cappuccino, mélange de crème, de sucre et d'épices, est une référence directe à la longue capuche en pointe des capucins et non pas à leur tonsure.
Oui, je savais que c'était lié
aux capucins,
mais... Oui, c'était
globalement ça. Et
bah, la réponse est bonne.
La réponse est bonne,
c'est
et c'est
ça
ce qui
l'essentiel.
Compte. C'est ce
voilà.
qui compte. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Février 2004, un moment historique, l'humanité ne sera plus jamais comme avant. Facebook est né. Stéphane Bern a 91 503 amis. J'en ai 637. Vous en avez 189, Clémentine.
J'en veux pas, moi.
Voilà qui remet les choses en... Bah, vous êtes bien inscrit sur Facebook.
Mais oui, mais pour communiquer avec mes gosses, mais si, je ne veux pas d'amis sur Facebook, moi. Je veux connaître les gens avec qui je communique.
Si Facebook est bleu, c'est parce que son fondateur, Mark Zuckerberg, est fan d'Égypte antique et le bleu est le symbole de l'immortalité, vrai ou faux? Stéphane, vous avez l'air de connaître la réponse, ce qui m'étonne, connaissant la réponse.
Europe 1 est bleu aussi.
Est-ce que le...
C'est une immortalité, vous croyez?
C'est une immortalité, on l'espère.
Est-ce que le Némès des pharaons n'est pas bleu et blanc, comme l'est celui de Toutankhamon? C'est la seule référence à laquelle je pense dans de bleu égyptien, c'est le lapis lazuli des yeux, des petites statues qu'on dépose dans les tombeaux et du Némès, qui est cette coiffe qui est bleue et blanche. Alors, si ça n'est pas à cause du bleu de l'Égypte antique, ça pourrait être à cause du bleu, qui est la couleur de Marie. Alors, c'est plutôt, pour le coup, un symbole chrétien
oui,
et catholique.
Mais en fait, Zuckerberg, ça ne doit pas être
mais
son
Zuckerberg,
truc.
Mais Zuckerberg, ça ne doit pas être son truc. Donc, je dirais oui.
Non, ce n'est pas une accusation.
Donc, je dirais... je dirais oui, c'est vrai.
On va avoir des soucis. Vous dites oui.
Vous avez perdu.
Et ça m'arrange. Faux. Bon. Zuckerberg a choisi le bleu pour une raison beaucoup plus rigolote. Il est daltonien, c'est la seule couleur qu'il voit bien. Voilà pourquoi Facebook est bleu. Est-ce que celui qui a créé Europe 1 était daltonien? On ne sait pas. Nous sommes donc à égalité. Chers amis, c'est la question
de rapidité
qui va vous départager.
On a le droit de donner le chiffre. Hein.
Vous avez le droit de me répondre. Chiffre. Mais alors attention, vraiment très rapide. La dernière fois, je rappelle, on a eu un cas d'égalité.
Ouais, d'égalité
vous avez dit le chiffre au même moment. Simplifier l'orthographe, on en parle depuis 1639. Cette année, une première réforme a lieu pour rendre le français plus accessible. Dorénavant, on écrira « auteur sans H », on dira « répondre » au lieu de « respondre ». 30 ans plus tard, on demande à l'académicien François Eudes de Mézeray de continuer dans ce sens. Que s'est-il passé? 3 propositions. Il fait en sorte que le pluriel avec un S soit un maximum la règle. Il fait en sorte de rajouter un E quand un mot était féminin, même s'il y avait encore des exceptions. Où il a dit, on s'en fout, c'est quand même plus sympa quand c'est compliqué, ne serait-ce que pour faire la différence entre les intelligents d'un côté et les débiles et les femmes de l'autre.
Un.
Échec collégial.
2.
Bon, que Stéphane Bern remporte le quiz.
On s'en fout, on fait n'importe quoi.
Bravo Stéphane, c'est pas la citation exacte, mais dans l'esprit, c'est tout à fait ça, la citation exacte. La voici.
Non, c'est scandaleux.
Pourquoi on n'est pas allé vers une simplification de la langue? L'académie doit préférer l'ancienne orthographe qui distingue les gens de lettres d'avec les ignorants et les simples femmes. François Eudes de Mézeray. Bravo Stéphane.
Eh ben chapeau.
Vous connaissez bien cette
surtout
époque.
Surtout dans une émission sur les badass du féminisme, vous faites fort les gars.
Bravo,
moi je m'en vais.
Mézeray.
Je veux plus entendre parler de vous. Allez, adieu.
Bah en même temps, vous avez terminé votre journée.
16h 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous êtes sur Europe 1, l'heure est à la fois à la gaudriole potache et à la mise en perspective historique. Cocktail unique, qui signifie que vous écoutez historiquement vôtre. Pour la mise en perspective historique, Stéphane Bern est à mes côtés. Pour la gaudriole potache, je m'en occupe. Cet après-midi, Stéphane, on évoque 3 grandes figures du féminisme. Des féministes pas comme les autres, on peut le dire.
Oui Mathieu, cet après-midi, une colère manifeste. On réunit 3 féministes qui ont écrit un manifeste. Après Mina Loy, je vais vous parler d'une figure féministe de la deuxième moitié du XXe siècle. Figure assez jusqu'au boutiste, vous allez voir Valérie Solanas, autrice du fameux Scum Manifesto, un texte tout à la fois décrié et fondateur du féminisme radical.
J'espère Stéphane que vous parlerez aussi de sa pièce de théâtre, une pièce que personne n'avait voulu monter à l'époque, en dépit d'un titre pourtant assez fédérateur, voire familial, Up Your Ass. Je traduirai tout à l'heure pour ceux qui ne parlent pas anglais. De mon côté, je brosserai le portrait de notre troisième féministe du jour, une de nos écrivaines les plus talentueuses, Virginie Despentes, dont je peux l'avouer, c'est assez rare pour être souligné, j'ai lu tous les livres.
Ah oui.
Je reviendrai évidemment sur son manifeste féministe à elle, on peut le dire, King Kong Theory. Un manifeste qui nous a permis à nous les hommes de nous poser les vraies questions, moi en tout cas, vous aussi Stéphane, j'en suis sûr.
Vous trouvez que j'ai grossi?
Non, mais des questions plus importantes aussi, je vous laisse y réfléchir et nous présenter les chroniques qui nous attendent dans cette deuxième heure, Stéphane.
Oui, des chroniques passionnantes, Mathieu, à n'en pas douter. Bon, certes, la mienne sur l'origine des faux culs. Croyez-moi, j'ai quelques exemples sous les yeux, donc je pourrais vous en parler.
Je n'ai pas d'exemple.
Mais David Castel-Lopez qui nous raconte les origines d'une chose qu'on utilise plusieurs fois par jour.
Normalement.
Trois fois, deux minutes.
Qui le fait trois fois? Qui se brosse les dents 3 fois dans la journée?
Moi, j'ai la chance de rentrer à la maison à midi. Oui.
Ah oui,
ouais.
Oui.
Mais sinon, j'ai toujours une brosse à dents sur moi, au cas où.
Au cas où.
Et vous pouvez nous le montrer pour
dans mon cartable. Oui.
On ira vérifier.
Oui.
Parce que je ne prends pas pour argent comptant ce que vous dites. Vous m'avez dit aussi que vous étiez très fort en quiz historique.
Non,
on a vu. Donc nous allons envoyer
en
quelqu'un.
En quiz historique, mais pas en quiz
pervers. Quelqu'un est parti. Regardez, ils sont partis chercher votre sac, fouiller. On ne sait pas ce qu'on va y trouver. On révélera tout. On va le vider.
Un homme doit avoir quoi dans son sac? Dans son baisanville.
Dans son baisanville.
Le sac arrive. Le sac arrive, Stéphane. On va vérifier.
Oh, le sac est là.
Je le fais moi-même.
Il va le faire lui-même, il a pas. Vous le faites.
J'espère qu'elle est là.
Essayez de trouver votre brosse à dents.
Oui.
Alors, continuons. Avec nous, Olivier Pouls, les petits pois, la française.
Je vais vous parler de l'histoire de cette recette.
Qu'est-ce que c'est que cet objet?
Je m'interromps parce que là, il vient de sortir un truc qu'il a tout de suite remis dedans discrètement.
Un objet que je qualifierais d'objet électrique qui n'est pas un rasoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Du gel désinfectant, ça c'est très bien Stéphane, c'est très bien.
Paracétamol, ça c'est bien,
c'est un homme prévoyant.
Ouais.
Nous avons... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une petite... Alors ça c'est un... Oui, qu'est-ce que c'est?
C'est du baume à lèvres.
C'est du baume à lèvres. Monsieur s'entretient,
il faut
être parfaitement hydraté. On a jusqu'à 18h. Julien Bugier m'a dit, vu l'événement, on prendra un truc du retard. Il n'y a pas de problème, on veut savoir.
Je ne l'ai pas dans ce cartable.
Vous n'avez pas de brosse à dents?
Aujourd'hui, je ne l'ai pas, parce que... Voyez-vous...
Non, parce que voyez-vous, j'ai déjeuné tout à l'heure et j'ai laissé la brosse à dents à la maison.
Vous avez laissé la brosse à dents et maintenant vous êtes sans brosse à dents. Oui. Heureusement, ce soir, mais vous rentrez chez vous. Ne découchez pas, Stéphane, attention, hein, ne découchez pas.
Voilà.
Impossible.
Vous êtes content, vous
Je suis content, je vous ai piégé une fois de plus. On parlera donc des petits pois à la française avec Olivier Pouls.
Voilà.
Hein, le petit pois, il faut en avoir chez soi.
Oui, oui, j'en ai toujours sur moi aussi.
Toujours sur vous, d'ailleurs, ils sont là. Dans mon cartable. On va chercher le sac d'Olivier Pouls. Le mot de la fin, Stéphane, vous l'avez dit. Vous nous parlez des faux culs, tout
simplement. D'où ça vient ?
D'où vient cette expression ?
Bah, du studio Coluche.
Probablement. Mais tout de suite, petite pensée pour Sacha Guitry. Nous partons à la rencontre d'une vraie badass du féminisme, considérée comme l'initiatrice du féminisme radical. Stéphane Bern nous raconte Valérie Solanas.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Le 3 juin 1968, Valérie Solanas entre dans la Factory. Vous savez, le célèbre atelier d'Andy Warhol sur Union Square à New York. Le pape du pop art note immédiatement qu'elle n'a pas son air habituel. Elle est maquillée, particulièrement apprêtée. Soudain, Valérie sort un revolver et tire trois coups. Warhol s'effondre. Il n'aura fallu à la jeune femme de 32 ans que quelques secondes pour accéder à la célébrité. Pour l'histoire, elle est désormais celle qui a tiré sur le plus grand artiste du monde. Après son geste fou, Valérie Solanas se rend à la police. Pour seule explication, elle a cette phrase « Lisez mon manifeste, il vous dira qui je suis ». Ce pamphlet féministe, elle l'a écrit un an plus tôt, en 1967, sur les toits de New York et au Chelsea Hotel, lieu de rencontre des beatniks fauchés et des futures stars du rock, traînant partout avec elle sa machine à écrire, même quand elle était à la rue. L'œuvre s'intitule « Scum Manifesto ».« Scum », comme la boue, l'ordure, et au sens figuré la lie de la société, ce qu'on met au banc. « Scum », qu'on a aussi voulu réduire à un acronyme « Society for Cutting Up Men », tailler les hommes en pièces, ou plus crûment, les amputer d'une partie de leur anatomie, si vous voyez ce que je veux dire.
Je vois, Stéphane.
Il est vrai que le texte s'en prend très violemment au sexe masculin. Valérie Solanas y dénonce l'exclusion des femmes des postes de pouvoir et dans le monde artistique. Mais elle va plus loin. Grâce aux progrès techniques, on peut aujourd'hui produire uniquement des femmes, écrit-elle, car le mâle est un accident biologique. Une femme manquée, un avorton congénital, être homme, c'est avoir quelque chose en moins, c'est avoir une sensibilité limitée. Les hommes sont des êtres affectivement infirmes, égocentriques, incapables de partager ou de s'identifier à d'autres, inaptes à l'amour, à l'amitié, à l'affection, à la tendresse, et de résumer, chaque homme sait au fond de lui qu'il n'est qu'un tas de merde sans intérêt.
Ah oui, quand on parlait de radicalité,
oui,
on n'a pas menti, hein.
Là, ça fait pas trop du bien pour son égo. Le manifeste ne trouve pas d'éditeur, ça vous étonne ?
Oui,
alors
oui,
son
m'étonne,
auteur
oui.
L'imprime elle-même et elle le vend à la criée dans les rues de Manhattan. $1 pour les femmes, mais $2 pour les hommes. L'enfance de Valérie Solanas explique en partie sa rage envers les hommes. Elle grandit dans les années 40 dans le New Jersey, au sein d'une famille pauvre. Il est probable que son père puis son beau-père aient abusé d'elle. La jeune adolescente connaît une première grossesse. L'enfant est confié à une famille adoptive. Très jeune, Valérie montre un caractère à part, un sens précoce de l'injustice sociale, surtout celle qui touche les femmes. Elle n'hésite pas à se battre au sens propre pour les défendre. Malgré ce climat peu propice aux études, Valérie parvient à entrer à l'université. Elle étudie la psychologie et la biologie, rêve de devenir chercheuse. Mais les difficultés pour les femmes sont terribles. Les bourses sont réservées aux hommes. Elle comprend vite que les filles dans ce milieu non plus n'ont pas les mêmes opportunités que les hommes. Alors, elle abandonne ses études et s'installe à New York City. Un déchirement momentanément compensé par la découverte d'un monde nouveau où gays et lesbiennes vivent librement leur sexualité. Valérie Solanas peut enfin s'affirmer en tant que queer. La jeune fille travaille comme serveuse et comme ses revenus ne suffisent pas, elle décide de se prostituer. Mais elle garde un objectif en tête, écrire. Valérie a soif de revanche, elle est ambitieuse, elle veut être publiée, elle veut être connue, elle veut être reconnue. À New York, une figure domine le milieu bohème tout en incarnant le pouvoir et l'argent. C'est Andy Warhol. Il a réussi, il est célèbre. Valérie Solanas l'approche, lui confie un manuscrit, celui d'une pièce de théâtre baptisée « Up your ass, dans ton cul » qu'elle espère le voir réaliser.
La comédie, drôle mais très vulgaire, choque l'artiste qui la qualifie même de dégoûtante. Il perd le scénario et, pour offrir une compensation à son autrice, lui confie un rôle dans l'un de ses longs métrages, sans pour autant la payer, comme il a l'habitude de le faire avec les actrices d'ailleurs. C'est pleine de ce ressentiment, mais avec aussi la certitude de la publicité que son acte va apporter à son manifeste, que Valérie se rend à la Factory en ce jour de juin 1968 pour tout simplement tuer Andy Warhol. Elle a vu juste. Alors que la star est entre la vie et la mort, Valérie Solanas reçoit déjà l'offre d'un éditeur. Cet attentat, c'est ce qui va la faire connaître, mais aussi l'enfermer. Réduite à ses troubles psychologiques, beaucoup ne voient plus en Valérie Solanas qu'une folle et oublient l'auteur à l'ironie mordante, dotée d'un humour acerbe et d'une plume remarquable que l'on retrouve tout au long de son texte. L'attentat manqué, car Warhol en réchappe, vous l'avez compris, éclipse paradoxalement son œuvre pourtant très importante dans l'histoire du féminisme. Il ressort du manifeste Scum une détestation outrancière pour les hommes. Mais la pensée de Valérie Solanas est plus profonde et plus complexe. Elle dénonce une société faite par et pour les hommes. C'est au rôle traditionnel masculin, au mythe de la virilité que l'auteur s'en prend. Le Scum Manifesto est une pensée politique, anticapitaliste, qui s'attaque à un système plus qu'à des personnes. Solanas appelle à détruire la monnaie, les lois. C'est une révolutionnaire. D'ailleurs, s'il semble jaillir d'un trait, son manifeste est au contraire un texte travaillé, amendé, qu'elle a construit patiemment au fil des années. Il fait en tout cas l'effet d'une bombe au sein des mouvements de contestation pour les droits des femmes qui agitent l'Amérique dans les années 60. Valérie Solanas affirme que les manifestations féministes ne servent à rien. À quoi bon réclamer quelques droits à l'intérieur d'un système dévoyé ? Les tensions que son texte génère provoquent une scission au sein de la National Organization for Women, la principale organisation féministe américaine. Mais à tout cela, Valérie Solanas n'assiste pas. Pas plus qu'au succès de son livre dans les milieux révolutionnaires des années 70 à travers le monde. Après l'attentat contre Warhol, elle passe plusieurs mois en prison, puis à l'hôpital psychiatrique. Elle retourne ensuite à la prostitution, aux drogues, et meurt dans la misère et la solitude dans un hôtel miteux de San Francisco. Son corps n'est retrouvé que 3 jours plus tard. Comme une deuxième mort, tous ses derniers écrits sont détruits par sa mère et perdus à tout jamais.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Valérie Solanas, nous sommes avec la journaliste Lorraine Bastide. Bonjour Lorraine Bastide.
Bonjour.
Bonjour Lorraine Bastide, vous êtes journaliste, féministe, créatrice de podcasts, vous animez le vôtre La Poudre, et vous avez signé la postface du Scum Manifesto de Valérie Solanas dans une nouvelle édition qui vient de paraître aux éditions Mille et Une Nuits. Vous commencez votre postface par ces mots « Mettons-nous d'accord sur un point ». Éliminer les hommes réglerait nos problèmes. Faut-il poser sérieusement cette question et qui est une question de Valérie Solanas?
Non, je pose cette question comme un trait d'humour et un peu de provocation dans la postface. En revanche, je suis assez convaincue que Valérie Solanas était assez sérieuse sur le sujet, oui.
elle plaisantait pas. Oui. Avant vous, Lorraine Bastide, Michel Houellebecq avait introduit le Scum Manifesto en ces termes, je cite, « Pour ma part, j'ai toujours considéré les féministes comme d'aimables connes, inoffensives dans leurs principes, malheureusement rendues dangereuses par leur désarmante absence de lucidité. » Deux salles, deux ambiances, donc ça vous a fait quoi de passer après Houellebecq, si j'ose dire?
J'étais honorée qu'on me propose de passer après lui. Bon, il a vraiment un très fort biais antiféministe. On peut même dire franchement misogyne. Après, ça reste une grande plume, un grand auteur. Donc quelque part, j'étais honorée de passer avec lui et puis soulagée aussi de pouvoir remplacer cette préface, cette postface qui était quand même assez violente pour les femmes.
Essai féminazi, hypercute satirique à hurler de rire. Vous racontez que la presse à l'époque ne sait pas comment prendre ce manifeste. Comment vous le lisez aujourd'hui? Il y a une part de colère, certes, mais il y a aussi une part d'humour, n'est-ce pas?
Oui, il y a de l'humour, mais évidemment qu'il y a de l'humour. Mais en fait, il y a très souvent de l'humour hein, chez les autrices féministes. On trouve aussi de l'humour dans les textes de Virginia Woolf ou de Virginie Despentes. Et pourtant, c'est pas ce qu'on retient. Et ce que j'avais envie de souligner dans ma postface, c'est que finalement, on a toujours privilégié l'approche par l'humour. Non, mais elle rigole, elle exagère, elle est forcément en train de nous faire une grosse blague. Alors qu'en réalité, moi, je crois pas que ce soit finalement le trait principal de ce texte. Et je crois que le rire qui provoque souvent, c'est plutôt un rire gêné.
Certains ont dit à l'époque que Valérie Solanas faisait même du mal au féminisme par son caractère radical. Est-ce qu'un mouvement comme MeToo permet d'accueillir le Scum Manifesto avec plus de sérieux, de le rendre plus audible en tout cas aujourd'hui ?
Oui, complètement. Je pense que le contexte actuel vraiment fait résonner ce texte de façon complètement différente. Jusqu'à maintenant, c'était un espèce d'ovni qu'on savait pas très bien où classer, où mettre. Et puis là, il y a quand même une conscience, une prise de conscience globale dans l'ensemble de la société, notamment sur les violences sexuelles. Et c'est vraiment une révolution qui s'est produite avec MeToo. Je crois que même chez les femmes, ça a été vraiment une prise de conscience que certaines choses qui étaient subies au quotidien n'étaient pas normales, étaient systémiques, devaient être changées. Donc il me semble que le fait qu'ils reparaissent aujourd'hui en 2021 a vraiment une portée symbolique très importante. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça qu'on m'a demandé à moi de faire cette postface, parce qu'on pouvait plus avoir cette postface très datée de Michel Houellebecq, qui avait l'air de considérer que le féminisme était un espèce de combat complètement dépassé.
Vous écrivez que Valérie Solanas est la vieille tante encombrante que les féministes ne savent pas très bien où placer à table. Qu'est-ce qui dérange chez elle? Surtout, qu'est-ce qui divise chez les féministes?
Ah bah c'est la violence. Valérie Solanas, c'est quand même une femme qui a tiré sur un homme. Elle fait partie dans l'histoire des rares femmes qui ont exercé voilà une violence contre un homme parce que voilà enfin le fait divers qui l'a rendue célèbre bien plus que ce livre hein. D'ailleurs c'est quand elle a tiré sur Andy Warhol avec la ferme intention de le tuer. Donc évidemment que ça divise évidemment que pour une grande partie des féministes c'est pas un geste acceptable et que le monde qu'on veut voir émerger c'est pas un monde de violence et de vengeance. Donc voilà, et déjà à l'époque, elle avait aussi vraiment inquiété dans les rangs féministes, notamment chez les plus réformistes, qui se demandaient quelle image elle allait donner du mouvement avec cet appel au meurtre, quoi.
Oui, mais cela dit, au moins, on peut lui reconnaître qu'elle a la cohérence entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, puisqu'elle préconise de tuer les hommes, elle a essayé de le faire sur Andy Warhol en 68. Donc, moi, je la prends plutôt au sérieux.
Bah, en tout cas, je pense que il faut prendre Valérie Solanas au sérieux comme écrivaine. Je pense que c'était vraiment en fait une grande penseuse féministe. Elle a produit énormément de textes, mais malheureusement, quasiment aucun en fait ne nous sont parvenus. Tout son travail a été détruit après sa mort. Donc voilà, je pense que c'était vraiment une personne qui était grande penseuse, une grande écrivaine, et que voilà, on a retenu l'espèce de trublionne qui avait écrit cette espèce de texte un peu bizarre et qui avait accompli ce geste flamboyant et inquiétant, mais au fond c'était une grande penseuse féministe. Après, je pense que dans le Scum Manifesto, elle-même, elle se rend bien compte que ce qu'elle dit, c'est aussi un petit peu délirant, quoi. Elle parle d'une espèce d'armée de femmes qui serait dans toutes les États-Unis, et en fait, au fond, il y a qu'elle, quoi. C'est la seule Scum.
Alors, ce qui vous expliquait aussi, c'est qu'il faut resituer tout ça, comprendre d'où elle parle, Valérie Solanas. Le fait qu'elle ait été violée SDF à 13 ans, deux fois mère avant 15 ans, et si ça justifie pas ses envies de meurtre, ça explique quelque part ses positions extrêmes.
Exactement, ouais, exactement. Et c'est, pour moi, c'était ça qui était vraiment très important. Je me suis dit que si j'avais un rôle à jouer en écrivant cette postface, c'était vraiment en réexpliquant d'où elle parlait, en racontant son parcours. Parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, on a beaucoup retenu son geste, sa tentative d'assassinat, mais elle-même a eu un vécu de violence de genre. Ce sont vraiment des violences qu'elle a subies parce qu'elle était femme, des violences que beaucoup de femmes subissent, hein, notamment le viol dans l'enfance. Il y a une prise de conscience de ce côté-là qui a lieu en ce moment même, hein, autour de l'inceste. Et voilà, donc je pense que son féminisme radical allait aussi chercher dans son vécu, et c'est très important de rappeler qu'elle a traversé tout ça.
Mais vous allez jusqu'à dire, j'ai votre postface sous les yeux, alors elle a tiré, Valérie Solanas et Jacqueline Sauvage, les trois coups sur Warhol, c'était de la légitime défense.
Oui. Bah alors, j'ai conscience que c'est encore une fois une phrase qui est un petit peu provocante. Et d'ailleurs, on sait très bien que Jacqueline Sauvage, qui est cette femme qui avait tiré sur son mari après avoir subi des violences conjugales pendant plusieurs décennies, elle n'a pas été, la légitime défense n'a pas été reconnue à son procès. Elle a été condamnée pour homicide, puis graciée, mais la justice n'a pas voulu reconnaître ce geste. Donc, en faisant allusion à Jacqueline Sauvage, je montre aussi que finalement, ce sera toujours compliqué pour la société d'admettre que le geste de Solanas, c'était aussi un geste en fait de une forme de revanche pour toutes les violences que les hommes lui avaient fait subir dans sa vie.
Lorraine Bastide, vous terminez votre postface en disant que l'on aura vraiment compris Solanas le jour où on demandera à une travailleuse du sexe d'écrire cette postface. Ce monde-là, vous y croyez ?
Je sais pas, ça dépend un peu des jours. ces derniers temps, j'ai eu des moments d'espoir parce que c'est vrai qu'il y a eu des grandes avancées dans le combat féministe. Je pense qu'on est vraiment pas du tout au même stade aujourd'hui qu'on pouvait y être il y a encore 5 ou 6 ans. Mmh. Et puis parfois j'ai des moments aussi d'inquiétude et j'ai des sentiments de grand recul parce que parallèlement au développement des idées féministes, il y a aussi beaucoup d'idées masculinistes hein, qui sont en train de dans la société qui sont en train de monter, notamment sur les réseaux sociaux, où on voit des choses qui font très peur. Donc je sais pas dans quel sens le vent va tourner.
Enfin, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, hein.
Oui, c'est
non, merci de le rappeler. C'est très, très juste.
Voilà. Rassurez-vous. Non. Enfin, en tout cas, dans l'émission, nous, on est très féministes et on salue, on donc, il faut lire sérieusement donc le Scum Manifesto de Valérie Solanas que vous avez, Lorraine Bastide, postfacé avec brio et c'est publié aux éditions 1001 Nuits. Merci d'avoir pris quelques minutes pour être avec nous.
Merci.
Merci à vous de m'avoir reçu. Merci beaucoup.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, 3 femmes. Leur colère est manifeste. Elles sont les badasses du féminisme. Après Mina Loy et Valérie Solanas, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai de celle dont vous pensiez qu'elle serait en studio avec nous.
Oui.
Alors que non. Virginie Despentes.
C'est vrai, Stéphane, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, je suis tellement fan de Virginie Despentes que j'ai dû m'auto-persuader qu'elle serait avec nous en studio, et finalement, c'est mieux comme ça, je crois que j'aurais été trop intimidé. Virginie Despentes, c'est quand même la trilogie Vernon Subutex, King Kong Theory, qui est un peu son manifeste féministe à elle, on va en parler, et puis bien sûr, son roman fondateur, Stéphane, Baise-moi.
Mais j'ai plus envie.
Non, c'est le titre du roman, Stéphane. Titre du roman. Bref, c'est aussi pour ça que je me dis que c'est mieux qu'elle ne soit pas là quand on y réfléchit. Grande écrivaine comme ça, confrontée à 4 mecs pas forcément hyper calés en littérature, pas forcément très fins non plus, elle aurait vite compris qu'elle n'était pas tombée dans bouillon de culture.
La rosette, c'est fait avec quel saucisson ?
C'est fait avec les boyaux qui sont les plus proches de l'anus.
Et c'est pour ça que ça s'appelle la rosette ?
On n'est pas prêt de présenter la grande librairie, les gars. Donc, heureusement, Virginie Despentes n'est pas parmi nous aujourd'hui pour parler du féminisme. Et c'est pas tant que ses œuvres en particulier que sa vie qui est un manifeste féministe en soi. Car de même qu'on ne naît pas femme, on le devient, on ne naît pas féministe, on le devient également. Au long d'un parcours parfois jalonné de traumatismes. C'est pourquoi je crois pouvoir dire que Virginie Despentes rigolerait, Stéphane, si vous lui disiez que vous étiez vous-même féministe. Elle vous dirait que ce n'est pas parce que vous avez assisté à une représentation des monologues du vagin avec Séverine Ferrer et Armand Altaï en 2010 que ça suffit à faire de vous un féministe. Le féminisme de Virginie Despentes n'est pas déclaratif, il est existentiel. Là, tu peux mettre la musique de Bouillon de Culture, je chauffe un peu intellectuellement, va falloir s'accrocher mes loulous, ça va vous changer de la rosette. À ce jour, malgré ses ventes stratosphériques, il lui est arrivé d'être au coude à coude avec Marc Lévy, un autre grand féministe de salon, Virginie Despentes reste un ovni dans le paysage littéraire. Romancière, cinéaste, dramaturge, travailleuse du sexe, journaliste et même babysitter, on reviendra sur ses multiples expériences. Elle est toutes les femmes de nos vies, notre âme sœur, notre égérie, parfois notre meilleure ennemie, toutes les femmes de nos... Non, c'est pas de moi. Bref, voici l'histoire d'une femme qui s'oppose à l'establishment, déstabilise le patriarcat, elle est directe, ne s'excuse pas de l'être, et elle n'est pas là pour plaire. Virginie Despentes voit le jour, enfin, j'imagine à travers le brouillard, à Nancy, le 13 juin 1969. Elle ne s'appelle pas encore Despentes, mais Dagé. Pourquoi Despentes, alors, me direz-vous, elle choisira ce pseudo en hommage au quartier d'une des villes où elle grandira. Vous pouvez peut-être deviner, Stéphane ? Une ville, Despentes.
Une ville où il y a des pentes.
Oui, les pentes de la Croix-Rousse, Stéphane.
Ah bah, Lyon.
Mais oui, voilà. Lyon, quelle vivacité d'esprit. Virginie, pas encore Despentes, se découvre une passion pour la littérature et l'écriture grâce à un de ses profs de français dont elle dira qu'il a tout simplement changé sa vie. Une vie qui commence difficilement. Hein. L'enfance de Virginie est tumultueuse. Entre 2 livres de Volinsky lui en cachette, elle se bastonne avec des garçons dans la cour de récré et fugue à plusieurs reprises. À 15 ans, elle est carrément internée en hôpital psychiatrique. Elle en ressort 2 mois plus tard déboussolée et surtout déscolarisée. La descente aux enfers continue, bisbille avec la police, virée dangereuse en stop. À l'âge de 17 ans, elle est victime d'un viol. Tétanisée, elle n'arrive pas à utiliser le cran d'arrêt qu'elle a pourtant toujours dans sa poche. Une épreuve qu'elle surmontera, comme beaucoup de victimes, par le déni. Ce n'est que bien plus tard, notamment dans King Kong Theory, qu'elle arrivera à en parler. Ce viol, c'est ce qui me défigure et me constitue à la fois, écrit-elle. L'entrée dans l'âge adulte n'est pas plus simple pour Virginie Despentes, qui vit dans un foyer, bosse chez Auchan et pratique ce qu'elle appelle la prostitution volontaire et occasionnelle. À 20 ans, elle descend plus de binous par jour qu'Olivier Pouls, qui pourtant...
Je suis la roqueuse de diamants.
Pourtant, quoi. On a descendu aussi pas mal dans sa jeunesse. Entre 2 canettes, cependant, Virginie écrit... À 23 ans, elle signe Baise-moi, son premier roman. Les maisons d'édition s'étouffent.
Je sais cette merde !
Le manuscrit est trop cru, trop choc. Des copies circulent dans le milieu punk. D'ailleurs, Stéphane Bern, à l'époque connu sous le nom de Petite Crête Dorée, organise des lectures du roman subversif sous des ponts, éclairés par des bidons d'essence en feu. Faute d'éditeur, la carrière littéraire de Virginie ne décolle pas. Pour payer son loyer, elle exerce un temps un bien joli métier, dont Monsieur Pinardot, mon conseiller d'orientation en troisième, m'avait caché l'existence, critique de films pornographiques. L'enquête faisant partie de l'ADN du métier de journaliste, j'ai évidemment fait une recherche pour retrouver certaines de ses critiques, donc signée Virginie Despentes, en voici un petit florilège. Même la bouche pleine, Cassandra réussit à émouvoir. Sa double PD rappelle avec justesse et pragmatisme l'importance de ne jamais négliger la souplesse de ses ischio-jambiers. Dylan Mandrake est très convaincant dans son rôle de charcutier naturiste périgourdin, et Avec ceci, je vous remets un coup, est un film qui sent bon nos belles régions et les plaisirs simples. Ou encore, Katharina prend tellement de plaisir, on croirait vivre une inondation dans le Var. Dans ces années-là, Virginie bosse aussi au Virgin Megastore des Champs-Élysées. Si ça se trouve, Stéphane, c'est elle qui vous a orienté sur la version collector du triple best-of André Dassary, Chant de Vichy, Les Belles Années, 39-45. C'est en 94 que tout bascule finalement pour Virginie. Florence Massot, une éditrice spécialisée dans les œuvres de la contre-culture, tombe sur le manuscrit de Baise-moi et prend le risque de le publier. D'abord 1000 exemplaires, puis 2000. La diffusion reste encore confidentielle jusqu'à ce que Thierry Ardisson le lise, plutôt que ses fichistes le lui lisent, et qu'il décide d'en parler dans son émission. Il faut réimprimer 40 000 exemplaires, puis 100 000. Baise-moi devient un phénomène et Virginie Despentes une star montante de la littérature. Suivront Les Chiennes Savantes, puis chez Grasset, cette fois Les Jolies Choses, écrit en 3-4 jours sous coke, fanfaronne Despentes, sans savoir que c'est comme ça que Stéphane écrit les récits de secrets d'histoire depuis 20 ans. Rien de très original donc. D'ailleurs, la coke, Virginie en est revenue. Elle dit que c'est la drogue qui lui a laissé le plus mauvais souvenir. Je n'ai jamais vu quelqu'un que ça rendait brillant sur le long terme. La cocaïne, ça fait juste des cons arrogants, bavards, très sur deux, agressifs, parano, certainement pas géniaux. On embrasse Frédéric Becbédé. En attendant, Les Jolies Choses remportent le prix de Flore en 98 et sera même adapté au cinéma dans les rôles-titres Marion Cotillard et Stummy Bugsy.
Ah, génial !
Oui, c'est Virginie elle-même qui adapte Baise-moi ensuite au cinéma. Plus encore que le livre, le film choque avec ses scènes de sexe non simulées. Un film qui est retiré après 3 jours seulement d'exploitation, après avoir fait transpirer à grosses gouttes les extrémistes religieux, certaines associations féministes et moi-même, mais pas pour les mêmes raisons. Les succès littéraires, eux, continuent de s'enchaîner pour Despentes. Apocalypse Bébé, King Kong Theory et bien sûr la trilogie Vernon Subutex. Un succès qui aurait pu la changer. Moi, perso, j'aurais quitté le 19e pour m'installer dans un manoir dormant où des statues de Niki de Saint-Phalle auraient orné le parc ceinturé de chênes centenaires. Pas Virginie qui choisit de rester dans son appart début de Chaumont. Étant issue d'un milieu modeste, ses amis expliquent qu'elle est restée marquée par une différence de classe. Et puis, vous l'avez compris, Virginie fait partie de ces artistes entiers qui vivent selon les convictions qu'ils défendent dans leurs œuvres, des convictions, notamment féministes donc, qui transparaissent dans son manifeste King Kong Theory. Je ne vous fais pas l'insulte de vous demander si vous l'avez lu, Stéphane. King Kong Theory, vous vous souvenez de l'histoire, une femme...
entourée de gorilles.
Bon, vous l'avez pas lu, c'est pas grave.
Mais
c'est pas grave.
Vous osez
c'est pas grave. C'est un essai époustouflant, je vous le prêterai. C'est un essai époustouflant sur le sexe et le genre qui parle sans tabou des propres expériences de Virginie Despentes face à la violence sexuelle. L'œuvre est qualifiée de manifeste pour un nouveau féminisme et elle aurait une véritable influence sur toute une génération. Les critiques sont vives. C'est comme si les gens avaient soudainement reçu une feuille de route, dit Despentes, un mode d'emploi me concernant. Ah, ok, elle a été violée. On comprend maintenant. J'ose le dire. Si vous ne lisez qu'un seul roman de Virginie Despentes, lisez King Kong Theory. Et puis aussi Vernon Subutex, parce que c'est quand même trop cool. Toujours noir, mais par moments plus feel-good hein, que King Kong Theory. Vernon Subutex, c'est le best-seller de Despentes. 3 tomes, 300 000 exemplaires à chaque fois. On s'attache et on se reconnaît dans ces personnages abîmés par la drogue, le porno, la crise économique, les idées d'extrême droite et le temps qui passe. En 2019, Canal+ en fait une série avec Romain Duris dans le rôle-titre, mais Virginie est déçue de l'adaptation. Au début, j'ai accepté de bosser dessus parce que la réalisatrice avait fait un truc qui s'appelait Hard, que j'avais trouvé pas horrible, mais au bout de 3 mois, ça s'est délité. Despentes tente de corriger le tir, mais d'après elle, la réalisatrice ne veut rien entendre. Faute de discussion possible, elle abandonne le projet. Manque de bol pour cette réalisatrice, elle habite le même immeuble que Virginie Despentes, qui n'est pas du genre rancunière, mais un peu quand même. Je la terrorise depuis 1 an et demi avec ma désagréabilité, raconte-t-elle. La contrepartie de cette déception, une douche de thunes, nous révèle Despentes. Douche de thunes, côté financier, donc tout va bien pour elle. Enfin, côté vie privée, Virginie Despentes aura vécu un temps avec Philippe Manœuvre et ses blousons en cuir un peu trop cintrés. Elle deviendra lesbienne juste après, faut-il y voir un lien de cause à effet ? Difficile de se prononcer, une chose est sûre, comme moi l'année dernière quand je l'avais reçue ici même, elle a dû découvrir qu'une fois les micros coupés, Philippe Manœuvre était peut-être un peu moins rock'n'roll qu'à l'antenne.
On est là pour le rock'n'roll, kids. Est-ce que je peux avoir un peu d'eau chaude sur mon thé de quelqu'un qui serait dans le coup de l'assistana ?
bref, Virginie aime désormais les femmes. Ma vision de l'amour n'a pas changé, mais ma vision du monde, oui. C'est super agréable d'être lesbienne. Je me sens moins concernée par la féminité, par l'approbation des hommes, et puis tous ces trucs qu'on s'impose pour eux. Et je me sens aussi moins préoccupée par mon âge. C'est plus dur de vieillir quand on est hétéro. La séduction existe entre filles, mais elle est plus cool. On n'est pas déchu à 40 ans. Alors, j'adore hein, Virginie Despentes, vous l'avez compris, mais sur ce point précis, je pense qu'elle fait fausse route. Vieillir, c'est dur pour tout le monde. Hein. Homo, hétéro, bi, homme, femme. Il y a peut-être juste les zoophiles qui tirent leur épingle du jeu parce que les animaux se foutent des rides. En tout cas, je peux vous dire, Virginie, que les femmes ne sont pas les seules à souffrir du regard qui change sur elles passé un certain âge. L'autre jour, j'ai cru que Stéphane allait mettre une gifle à une invitée quand elle lui a dit...
Au musée de l'homme, on a environ une soixantaine de momies aussi. C'est toujours bouleversant d'être face à une momie.
Pourquoi vous me regardez ?
Vous vous souvenez de celle-ci, hein, vous avez fait la gifler, hein.
Non, j'ai trouvé très drôle.
Oui, elle était sympathique.
Merci beaucoup.
Evelyne Ayer.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
À ce stade de la saison, ils sont copains comme cochons. Voici Olivier Pouls et David Castello-Lopez. Olivier, je crois que vous fréquentez de plus en plus dans la vie David Castello-Lopez.
Oui, j'ai le bureau qui est à côté du sien. Il veut dire que depuis une bonne heure, il essaie de jouer de la musique avec une brosse à dents dans sa bouche. Et, ouais. Et il passe de bureau en bureau. Mais tu reconnais le morceau.
Donc c'est plus grave ce qu'on imagine, ouais, ce que nous avait dit.
Et alors, je voudrais savoir si maintenant, ça y est, il le tient le morceau.
Non.
Toujours pas,
tout à fait,
non
pas tout à fait. À quel point que j'ai renoncé.
Oh non, il y aura pas de happening musique.
On essaiera.
C'est le moment que tout le monde attend, la chronique de David sur l'origine d'un objet du quotidien. Aujourd'hui, la brosse à dents.
Tout à fait. Il y a des moments, il est tard, on est devant Netflix, on s'endort un peu, puis là, on se réveille et on se dit « Oh là là, faudrait que j'aille me laver les dents ». Des fois, moi, je le fais pas. Voilà, je me lave pas les dents et je vais me coucher avec les dents pas lavées. Vous allez faire quoi ? Vous allez me juger, c'est ça ? Vous allez me dénoncer aux autorités de l'hygiène ? Ça me rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Je le vois sur vos visages là. Ça me dégoûte. Bon, se laver les dents, c'est important. Mais de quand ça date, hein, les outils pour le faire ? Et pourquoi il y a besoin d'une brosse spéciale pour cette partie du corps alors qu'il y a pas de brosse spécifique pour le cul ou les genoux ? Vous voyez, il y a des brosses à dents et pas des brosses à cul ou pas brosses à genoux. Voilà.
Bon. Et les brosses à dos.
Voilà les brosses à dos. Bon alors, les premières mentions d'hygiène dentaire, elles datent des Égyptiens, de l'Égypte antique, comme souvent, à peu près tout d'ailleurs, hein, les premières mentions ça date de là. Et les Égyptiens, visiblement, ils utilisaient une poudre de sabot de bœuf mélangée à des coquilles d'œufs pour se laver les dents. J'ai pas essayé, mais à mon avis, ça marche beaucoup moins bien que l'Aquafresh 3. Il n'y avait pas d'Aquafresh 3 encore en Égypte ancienne. Les Grecs, eux, ils utilisaient des chiffons avec lesquels ils se frottaient les dents. Mais l'une des premières mentions de quelque chose qui a une certaine parenté avec la brosse à dents, c'est un objet utilisé de façon rituelle dans la tradition islamique et qui s'appelle le miswak. Le miswak, ça veut dire bâton pour nettoyer ses dents. C'est donc un bâtonnet issu d'un arbre qu'on appelle le Salvadora persica et que l'on mâchouille pour faire du bien à ses dents. Il y a des principes actifs dedans assez sympas. Et on le mâchouille en particulier, d'après ce que j'ai pu lire, en période de ramadan, puisque vous le savez, l'utilisation du dentifrice est déconseillée pendant le ramadan, parce qu'on risque de l'avaler. Or, on n'a pas le droit d'avaler quoi que ce soit pendant le ramadan. Mais il a fallu attendre le 18e siècle pour que les premiers objets qui ressemblent vraiment à des brosses à dents modernes fassent leur apparition. Et pourquoi ? Eh bien, une des raisons, c'est que avant cette période, les gens ne mangeaient pas beaucoup de sucre. Or, vous le savez, parce qu'on l'apprend à la maternelle, il y a un petit lien entre la consommation de sucre et les caries. Le tournant décisif de la brosse à dents, il a été pris en Angleterre à la fin du 18e siècle. Et là est intervenu un monsieur qui s'appelle William Addis. William, il était en prison à Londres et il s'emmerdait, comme c'est généralement le cas quand on est en prison. Et là, il s'est dit... Oh là là, les façons contemporaines de se laver les dents ne sont pas satisfaisantes. Et il a mis de côté un petit os de poulet de son repas d'un soir. Il y a attaché des poils de sanglier. Il avait accès à des poils de sanglier dans sa prison, c'est comme ça. Voilà.
Dans cette prison.
Il a collé les poils avec de la colle. Et quand il est sorti de prison, il en a fait un business florissant. Et les brosses à dents de William Addis, elles sont considérées comme les premières brosses à dents produites en masse de l'histoire de l'humanité. Alors vous avez remarqué que les brosses à dents aujourd'hui, elles sont séparées en plusieurs catégories. Il y a dur, moyenne, molle. Mais autant,
souple, putain,
je suis
souple.
Sûr que ça va être repris là ce que je viens de dire. Dur, moyenne, molle.
Oui, parce que le terme c'est souple.
Absolument, c'est souple. Voilà. Bah, c'est... Alors dur, moyenne, molle. Mais autant vous dire que les poils de sanglier qui ont quand même été utilisés jusque dans les années 30, c'est dur de chez dur de chez dur. C'est-à-dire ça vous fait des plaies partout sur les gencives. C'est nul. Donc vos dents sont propres, mais vous saignez. dans les années 40, on a inventé un truc super qui sont les trucs super qui sont les fibres synthétiques et qui ont pu faire des brosses à dents qui ne vous arrachaient pas le visage. Et bien sûr, à partir de là, les brosses à dents ont été touchées par la même créativité marketing que tous les autres produits de consommation du monde. Et leur manche, en particulier, est devenue de plus en plus tarabiscotée sous le prétexte d'être ergonomique. Comme s'il s'agissait, vous voyez, d'une arme de guerre susceptible de vous glisser des mains. Regardez la silhouette de cet exemplaire contemporain que je tiens dans ma main. Vous voyez, c'est fou, hein, c'est chantourné partout. C'est chantourné, il y a une dépression hein, pour le pouce, une autre pour l'index, vous voyez, pour que ça se cale exactement dans votre main. Tout ça est extrêmement antidérapant aussi, vous voyez, parce que vraiment, il ne faut pas que ça glisse de la main. Et il y a trois types de poils, vous voyez, de couleurs différentes, des verts clairs, des blancs, des verts foncés. C'est un petit bijou. Moi, personnellement, je n'avais pas fait attention à mes brosses à dents, et c'est ça aussi l'intérêt des chroniques que je fais, c'est que je revois les objets du quotidien avec un nouvel œil. Et je ne vais pas vous imposer le fait d'essayer de chanter avec une brosse à dents. Mais vous savez, ces moments où vous êtes dans votre salle de bain, vous vous brossez les dents, et si vous ouvrez plus ou moins la bouche, le son devient plus ou moins aigu. Et donc, finalement, vous pouvez faire une mélodie.
Ah non, moi, si j'ouvre la bouche, le dentifrice tombe sur moi et sur mon pyjama, et je suis sale.
C'est un gars qui se brosse les dents.
Mais est-ce que vous avez entendu la mélodie
quand même? Parce qu'il a, évidemment, c'était James Bond, j'ai reconnu. il a tellement l'oreille musicale que le mec se fait des films dans sa tête.
Sauf que maintenant, il y a de plus en plus de gens qui ont des brosses à dents électriques.
Ah oui, moi, j'ai électrique.
Et donc, ça fait un autre bruit. Bah oui.
Ah oui, c'est beaucoup plus efficace.
C'est plus efficace.
Mais il va faire une deuxième chronique
sur l'invention de la brosse électrique.
Attends, vous faites bien la baguette, le pain de campagne.
le progrès continue. Mais oui, c'était passionnant en tout cas.
Merci
David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.
On fait les choses dans le désordre aujourd'hui. On se brosse les dents et maintenant on passe à table. Olivier, ça n'a pas de sens et pourtant c'est historiquement vôtre aujourd'hui. Vous nous parlez du petit pois.
Oui, je trouve que c'est l'un des plus beaux symboles du printemps. Vous allez encore dire que j'aime tout, mais c'est vrai que les petits pois, j'aime particulièrement ça. D'autant que la saison est vraiment très courte. Alors c'est maintenant et jusqu'à la fin du mois de mai, on va avoir les petits pois dans le meilleur état possible, si je puis dire. C'est-à-dire ils sont encore tout petits, ils n'ont pas gonflé, ils sont pas trop farineux. Et le petit pois, en réalité, qu'est-ce que c'est? Ben c'est une variété de pois qui est récoltée au printemps avant son arrivée à maturité, parce qu'après
qu'est-ce que ça donnerait sinon?
Ben des pois cassés.
Tout simplement.
Alors ce petit pois est originaire d'Asie centrale. On le cultive autour du bassin méditerranéen depuis l'Antiquité et on le consommait généralement séché. Il arrive en France au XVIIe siècle grâce à Audigier, qui est l'un des intendants de la cour. Et Louis XIV en est complètement fan, à tel point qu'il exige qu'on plante des petits pois à Versailles. Et d'ailleurs, la région parisienne va être un lieu de culture très important des petits pois, puisqu'on va en trouver à Marly, à Étampes, à Nanterre, à Clamart. Et les petits pois vont vraiment devenir très très populaires à ce moment-là. Mais ils sont réservés plutôt aux classes très aisées. Il faudra attendre le 19e siècle pour que sa culture se répande partout en France.
Et la conserve.
Et ensuite, bon, la conserve, mais franchement, les petits pois en conserve,
oui, ça n'a rien à voir.
Depuis quand vous n'en avez pas mangé, mais c'est quand même vraiment dégueulasse. Autant le petit pois congelé, je suis d'accord, ça marche pas trop mal parce que on a des techniques aujourd'hui de congélation qui sont assez efficaces et quand ils sont récoltés vraiment à la bonne saison, mieux vaut manger des très bons petits pois congelés que des mauvais pois frais à la limite qui sont devenus trop gros et trop farineux. Je veux bien accepter le congelé.
Vous savez pourquoi? Quand on cuisine des petits pois frais, ils deviennent tout fripés.
Ils sont fripés quand ils sont trop cuits. Ah. Et là, maintenant, je vais vous parler...
Vous ne savez pas cuisiner, Stéphane. Ouais. C'est ce que je vous dis poliment, Olivier. Oui.
Et là, je vais vous parler d'une manière, justement, de les préparer, qui est le grand classique, hein, les petits pois à la française. Alors, c'est une recette qui a été inventée par Antonin Carême, qu'on trouve dans un traité qu'il a rédigé en 1832, consacré aux petits pois. Mais à l'époque, la recette qu'il présente n'a rien à voir avec celle qu'on nous présente aujourd'hui, puisque c'est une recette de petits pois qui sont mixés, c'est une sorte de purée qui recouvre notamment des quenelles. Donc ça n'a rien à voir, c'est Auguste Escoffier qui va écrire la recette des petits pois à la française telle qu'on la connaît. Et là, tout de suite, je m'empresse d'ajouter une précision très importante, parce qu'on a souvent tendance à penser qu'il y a des lardons dans les petits pois à la française, pas dans la recette originale.
J'ai bon les lardons.
Vous pouvez le faire si ça vous amuse. Mais dans la recette originale, il n'y en a pas. Il y a des petits oignons, il y a un bouquet garni, il y a du beurre, et il y a surtout du cœur de laitue. C'est une association entre petits pois et cœur de laitue. Alors, pour faire des petits pois à la française, du beurre, des petits pois,
que vous aurez écossé à la main, bien évidemment. Vous aurez mis vos petits oignons, un bouquet garni, un petit peu d'eau. Vous laissez cuire à couvert pendant 20-25 minutes. Il faut qu'il reste al dente, les petits pois, justement pour ne pas d'abord que la couleur devienne passe finalement et devienne un peu marronasse et que les petits pois se mettent à friper. Vous allez sortir vos petits pois, vous réduisez le jus de cuisson, vous rajoutez encore un tout petit peu de beurre pour lier, vous réunissez le tout, et puis vous rajoutez des petits morceaux de cœur de laitue. Et ça, c'est la vraie recette des petits pois à la française. Certains, dans la cuisson des petits pois, rajoutent aussi un tout petit peu de sucre. Quand les petits pois sont frais et sont très bons, ils sont tout petits justement, il n'y en a pas besoin, ils sont naturellement sucrés. On pourrait presque les manger crus.
Merci beaucoup Olivier Pouls, on retrouve toutes vos recettes évidemment sur le site europe1.fr. Et on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte, de 11h à 12h30 sur Europe 1. Stéphane, je vous sens prêt à nous livrer votre dernier mot. Aujourd'hui, on part à la découverte d'une expression qui n'est pas sans lien avec notre thème du jour, les badass du féminisme.
Oui, alors on va parler, si vous le voulez bien Mathieu, d'une catégorie de personnes qu'on préfère ne pas trop croiser. Il paraît qu'il n'y en a pas à Europe 1. Je vais parler des faux culs. Mais les faux culs, d'où ça vient cette expression, c'est un faux cul?
Des gens
qui disent quelque chose et qui pensent le contraire.
Déjà, vous avez raison Stéphane, aucune trace à Europe 1 de ces personnes qui disent l'inverse de ce qu'elles pensent. Et donc, je pose la question, d'où viennent les faux culs?
Mais ça vient du XVIIe siècle, voyez-vous. Les faux culs ne datent pas de la dernière pluie. En fait, les faux culs désignaient à l'origine une pièce de vêtement qui visait à mettre en valeur de façon ostentatoire la chute des reins de ces dames. Vous savez, la dernière qui en a porté, c'est Pippa Middleton pour le mariage de sa sœur Kate. Elle avait un faux cul pour mettre... Pour un push-up, on appelle ça, voilà.
Un push-up de fesses.
À la cour, la mode était donc aux polissons, aux tournures, aux queues d'écrevisse. Autant de mots pour désigner ce rembourrage que l'on portait sous la robe, sans oublier de mettre un corset pour accentuer encore plus l'effet taille de guêpe. À propos de cet engouement vestimentaire, l'auteur Gabriel de Minute aura ce mot à l'époque sans tendresse, les femmes bourrent leur derrière pour être par là estimées. Voilà qui est galant. Bon, rapidement, on dira faux cul pour toutes celles et tous ceux qui misent tout sur l'apparence. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on a, c'est pas forcément ce qu'on voit. Alors que le faux jeton, c'est aussi une expression qu'on dit, ah, c'est un faux jeton, ça c'est une expression qui date du Moyen-Âge. À l'époque, pour faire des calculs quand on souffrait d'illettrisme, on se servait d'une réglette, vous savez, avec des jetons pour faire ses comptes. Les jetons ressemblaient à de la vraie monnaie. Les faux jetons s'en servaient donc pour tenter de duper les honnêtes gens. Si vous le voulez bien, concluons sans faux semblant. N'oublions jamais que quand la franchise sert de tremplin à la bêtise, on se surprend à regretter l'hypocrisie. C'est pas de moi, mais c'est du regretter Guy Bedos.
Les amis, un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève. Il était consacré aujourd'hui à ces femmes dont la colère était manifeste. Les féministes qui ont écrit justement des manifestes. Laquelle de nos passionnariats vous a le plus impressionné, Stéphane? Mina Loy, que je ne connaissais pas personnellement, et son féministe manifesto. Valérie Solanas, la radicale, et son scum manifesto. Ou bien Virginie Despentes et son King Kong théorie dans lequel il n'y a pas, contrairement à ce que vous pensiez, de gorille, Stéphane.
Écoutez, je me suis intéressé à celle dont j'ignorais tout, Mina Loy. Voilà, j'adore dans cette émission. On se détend, mais on apprend des choses.
Un féminisme intéressant, ouais. Une plume aussi.
Une plume, exactement, une artiste.
Mina Loy. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures, Stéphane.
Oh, avec plaisir, Mathieu, avec plaisir.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.